Bonjour à tous.
Marx et son ami Engels et les Hegeliens de Berlin autour d'une table dans un coin exultent.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins où depuis lundi, nous avons voulu nous accorder un répit pour nous tourner vers Marx et le comprendre lui-même. Percer le sens de sa propre action, l'action de son esprit pour reprendre ses propres termes. Misère de la politique, histoire de la lutte des classes, magie de la monnaie, il est temps maintenant d'achever notre répit et de nous pencher sur la méthode critique de Marx. De quoi affronter le temps présent. Et c'est toute l'équipe des Nouveaux Chemins qui est elle aussi sans répit. Marianne Chassor, Marie Aubert, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette. Avec à la lecture des textes aujourd'hui Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons. Ils sont les fruits de leur temps, de leur peuple, dont ce que la sève est de plus subtil, de plus précieux, de plus insaisissable circule dans les idées philosophiques. Parce que toute véritable philosophie est la quintessence spirituelle de son temps, il faut que vienne le temps où la philosophie, non point en son seul dedans, par sa teneur, mais aussi au dehors, par son paraître, entre en contact et interaction avec le monde réel de son époque. La philosophie cesse alors d'être un système déterminé, affronté à d'autres systèmes déterminés. Elle devient la philosophie tout court, affrontée au monde. Elle devient la philosophie du présent monde. Ces phrases de Karl Marx résonnent tout autrement en ce jour de grève, en cette période de jour à bout et en ces nuits debout. Rien de tel donc que de pouvoir les expliciter aujourd'hui et de comprendre comment la philosophie n'a pas à être tant un monde contre le monde, mais dans le monde. Et pour éclairer cela, j'ai le plaisir de recevoir Florian Nicodème, professeur de philosophie au lycée Jacques de Cour de Paris, spécialiste de philosophie allemande, traducteur d'Adorno et de Marx, et puis membre de l'équipe de la grande édition Marx et Engels aux éditions sociales. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Je comprends très bien ce que tu dis. Mais ton idée.
On va fermer l'université.
Mais comment?
Avec des bombes.
Avec des bombes? Tu vas jeter des bombes, toi?
Écoute, si à partir du moment où on tue des étudiants ou des professeurs, ils seront à la trouille, ils ne viendront plus. Et donc les universités seront fermées.
Mais... dis-moi, tu fais ça toute seule?
Tu es bien d'accord que travailler, c'est lutter quand même.
Oui, c'est lutter, bien sûr, mais qu'est-ce que la lutte?
Mais regarde, si je veux connaître la théorie et les méthodes de la révolution, je suis bien obligée d'y participer à la révolution, pratiquement.
Mais tu peux participer à une révolution, tu ne peux pas l'inventer.
Mais regarde, si jamais je veux acquérir des connaissances, il faut que je passe par la pratique d'abord.
Bien.
Tu sais, tu es d'accord?
Oui, ça je suis d'accord. Seulement la pratique révolutionnaire suppose elle-même une connaissance de la situation.
Et les jeunes nihilistes russes, ils ont fait des bombes, ils ont jeté des attentats. Bon, bah qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu la révolution de 17.
Et tu imagines,
il y a eu octobre.
Tu imagines qu'on peut comparer la Russie tsariste à la situation française actuelle? Écoute, tu te dis marxiste-léniniste, non hein?
Non, mais là encore, on peut... Non, bien sûr, on ne peut pas en comparer, mais on peut en tirer une leçon. Comme tout ce qui se passe en Chine, on peut aussi en tirer des leçons.
Mais les leçons, vous les tirez comme ça, de façon terriblement abstraite. En réalité, on ne tire pas une leçon en superposant...
Écoute, Francis, est-ce que tu penses que c'est une erreur?
Oui, je pense que c'est une erreur.
Nous ne voulons pas anticiper le monde dogmatiquement, mais découvrir le monde nouveau, en commençant par la critique du monde ancien. Jusqu'ici, les philosophes détenaient la solution de toutes les énigmes dans leur pupitre, et ce monde d'ici-bas, bêtement exotérique, n'avait qu'à ouvrir le bec pour que les alouettes de la science lui tombent toutes rôties dans la bouche. Si la construction de l'avenir et l'achèvement pour tous les temps n'est pas notre affaire, ce qu'il nous faut accomplir dans le présent n'en est que plus certain. Je veux dire, la critique impitoyable de tout l'ordre établi. Impitoyable en ce sens que la critique ne craint ni ses propres conséquences, ni le conflit avec les puissances existantes. Nous développons pour le monde des principes nouveaux que nous tirons des principes mêmes de ce monde. Nous ne lui disons pas « Renonce à tes luttes, ce sont des enfantillages. C'est nous qui allons te faire entendre le vrai mot d'ordre de ce combat. » Tout ce que nous faisons, c'est montrer au monde pourquoi il lutte en réalité. Et la conscience de cela est une chose qu'il doit faire sienne, même contre son gré. Depuis longtemps, le monde possède le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. On s'apercevra qu'il ne s'agit pas de tirer un grand trait de suspension entre le passé et l'avenir, mais d'accomplir les idées du passé. On verra enfin que l'humanité ne commence pas par une œuvre nouvelle, mais qu'elle réalise son œuvre ancienne avec conscience.
Florian Nicodème, on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacobin, cette très belle lettre que Marx adresse à Arnold Rougeux en septembre 1843. C'est une très belle lettre, c'est une lettre aussi qui est très riche et dont il faut déplier les enjeux. Le premier enjeu peut-être dont on peut parler, si on met en parallèle ce texte avec l'extrait de La Chinoise, le film de Jean-Luc Godard de 1967, dont on a entendu un extrait. Cet extrait où on entendait cette jeune étudiante, Véronique, étudiante maoïste, qui demandait à Francis Janson, l'avocat Francis Janson, qui joue son propre rôle, si pour connaître la révolution il fallait y participer. Il lui disait non, il faut d'abord la connaître pour y participer. Et on peut se demander avec Marx si finalement cette opposition, ou du moins cette relation duelle entre connaissance et pratique, n'est pas dépassée avec ce qu'il propose dans ce texte, à savoir en fait déjà d'avoir une forme de théorie pratique. Les idées s'accomplissent, nous dit-il.
Effectivement. Et je pense qu'on peut remonter au texte que vous lisiez au tout début, ce texte hein, sur les philosophes qui ne sortent pas de terre comme des champignons.
Qui a un texte incroyable aussi.
Ah oui, un texte un peu enterré, un texte de 1842, dans lequel Marx, en réalité, inscrit la philosophie dans une double rupture par rapport à son concept traditionnel hein, et dans une double inscription par rapport au monde. D'abord, il s'agit de faire de la philosophie une discipline en phase avec la pulsation du monde. Marx dit que la philosophie doit pousser et croître en se nourrissant de la sève du monde. L'esprit qui la nourrit, c'est l'esprit du monde même dans lequel elle habite. Et la première critique, c'est d'abord la critique d'une philosophie pérenne qui prétendrait, de son point de vue anhistorique, dicter ses valeurs et ses concepts au monde, et notamment les valeurs et les concepts de la lutte. Le juste, le bien, le vrai, la philosophie les professerait ex cathedra, et les luttes sociales concrètes, les luttes qui, dans les années 1840 en Allemagne, sont très nombreuses, n'auraient qu'à suivre ce mot d'ordre. La philosophie les guide. Et la deuxième rupture, très importante, c'est de transformer la philosophie elle-même. De cesser de croire que la philosophie peut être une discipline autonome, mais qu'elle doit être une discipline ouverte sur ce monde, ouverte éventuellement sur la part qu'elle peut jouer dans ce monde, au moins en deux sens, soit en ce que ce monde la pilote comme un marionnettiste sa marionnette, c'est la thèse fondamentale sur laquelle le Marx plus âgé reviendra, la philosophie n'est qu'une formation idéologique, mais aussi, plus fondamentalement, la thèse d'une transformation de la philosophie pour transformer le monde. La critique impitoyable de tout l'ordre établi, c'est d'abord et avant tout une critique menée par la philosophie.
Alors il faut peut-être rappeler, Florian Nicodème, la manière dont Marx, justement pour appliquer ce que Marx préconise, à savoir penser dans l'histoire et non pas de manière dogmatique et anhistorique, il faut peut-être situer le contexte dans lequel Marx en fait va élaborer cette critique, cette manière de penser, et peut-être cette distance qu'il va prendre ensuite avec la philosophie. Quel est le contexte de l'Allemagne dans laquelle il vit et quelle est sa formation philosophique qui le conduit peut-être à la fois avoir une rencontre avec la philosophie, mais aussi en fait à la critiquer, parce que dès ce texte en fait il dit les philosophes, et en revanche il n'oppose pas un modèle de philosophie concurrent, il va déjà être du côté de la critique. Le terme de philosophie de manière positive n'apparaît pas déjà dans ce texte.
Effectivement, Marx aura toujours un rapport extrêmement ambivalent pour, c'est le moins qu'on puisse dire, au terme même de philosophie, qui va disparaître à un moment donné de son lexique. Il cessera de désigner sa propre activité comme philosophique. Et de fait, le contexte dans lequel Marx en vient à la philosophie est un contexte politique extrêmement tendu, puisque, en réalité, un État conservateur extrêmement brutal s'installe dans les années 1840 en Prusse et en Rhénanie, où Marx circule. Et du coup, le premier enjeu pour Marx, c'est de transformer la philosophie universitaire à laquelle il a été formé en moyen de lutter politiquement. Ça, c'est vraiment la première chose importante à voir, c'est que Marx délaisse très vite la carrière philosophique qu'il avait pourtant entamée pour des raisons politiques. Il est tout simplement chassé de l'université, il soutient sa thèse in absentia, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent à la soutenance de peur des persécutions.
Et comment il sait très bien. Comment on peut soutenir une thèse tout en étant absent?
Donc il est déclaré docteur, tout simplement. Et le fait est que sa carrière philosophique lui est barrée, il le sait, et que du coup, il doit nécessairement, c'est une nécessité pratique pour lui, transformer son activité philosophique, qu'il a développée dans des études de droit, mais aussi dans un travail philosophique universitaire, à développer cette philosophie tout de suite en journalisme. Et en réalité, le texte sur les philosophes qui ne sortent pas de terre comme des champignons est d'abord une réponse à la question de savoir si la philosophie doit faire du journalisme ou pas. Donc la dimension biographique est ici importante, mais les enjeux, pour le coup, sont terribles. L'État, comme objet philosophique, est confisqué par un État extrêmement conservateur, extrêmement brutal. Et du coup, la solution pour la philosophie, ce n'est plus de se faire comme la philosophie de Hegel, le défenseur finalement d'un État enfin rationnel, d'un État au bout de l'histoire, celui qui va advenir à un moment donné quand toutes les imperfections de l'état historique, empirique seront corrigées, mais ça va être de critiquer dès maintenant la figure de l'État et de trouver une figure alternative.
Est-ce qu'une première manière de définir la critique, c'est de dire qu'elle est au croisement en fait de la philosophie et de la politique, et ce qui nous permettrait peut-être aussi de ne pas réduire la critique à un versant négatif qui serait être contre l'ordre établi, être contre une manière de penser. En fait, est-ce que dire que c'est au croisement de la politique et de la philosophie, et du coup lui donner une dimension, une capacité à transformer les conditions d'existence, c'est donner aussi une valeur positive à la critique, ce qu'on n'entend pas tout de suite quand on entend ce terme de critique.
Effectivement, je pense qu'il faut revenir au sens du terme de critique, qui est d'abord et avant tout une opération de distinction. Il s'agit de discriminer, de distinguer, de faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie, en quelque sorte. Et donc, il s'agit de scruter le réel, tout ce qui est, tout ce qui nous apparaît, pour distinguer ce qui mérite d'exister, ce qui est justifié, et ce qui mérite de disparaître. Cette activité critique, je pense que Marx la reçoit du philosophe qui l'a le plus influencé lors de ses études, à savoir Hegel, qui distingue réalité et effectivité. L'effectivité, c'est ce qui de la réalité est soutenu par une justification rationnelle, tandis que la simple réalité empirique, c'est ce qui peut très bien n'être que néant, finalement, n'être que vide. Et donc, la première opération critique, c'est celle-là, distinguer dans le réel les forces agissantes, les forces qui tendent vers l'avenir. Ce sont ces valeurs venues du passé que le présent a pour charge d'assumer. Et puis distinguer évidemment ce qui doit tomber, cet ordre établi qui n'a aucune justification. Et donc la première opération critique, c'est d'abord celle-là, trouver dans le monde les normes au nom desquelles on peut critiquer ce monde. Ne pas les importer de l'extérieur, comme la philosophie universitaire le faisait ex cathedra, mais les trouver dans le monde, suivre ces lignes de fuite que sont ces normes, et réaliser à partir de là ce dont le monde est porteur.
What's up, boys? Cool.
Ah, oh, that's fucking typical, that is.
Celle-là, je l'aurais parié.
C'est quoi? T'as encore trop payé?
Non, ils m'ont prélevé 180 livres.
Qui ça?
Les allocs familiales.
Ah, tu t'y attendais?
Oh, fais chier, ça peut plus durer. Où elle est, cette lettre? Ils se foutent de nous.
Oh, déconne pas, Paul, tu vas quand même pas signer ça.
J'en ai marre,
Paul. T'es pas sérieux?
J'en ai marre.
Y'a rien qui nous retient, ici.
Il m'offre 9677 livres de prime. Combien Lane t'a dit qu'il gagnait?
15 livres.
Ouais, 15 livres de
prime. Ouais, mais il est pas sûr de bosser 40 heures semaine.
C'est deux fois ce que je touche. Vous vous rendez compte?
C'est beaucoup plus que ce qu'il gagnait quand il était chez Fils.
Il avait un salaire régulier, au moins.
Un salaire de misère. Je vis avec quoi, moi? Hein? Je dois trouver un appart, acheter des meubles aussi. Et ils me prennent 180 livres sur ma paye. Comment je peux vivre avec ça? Je vais signer. T'as un stylo, Jim?
Des clous, je te prête pas mon stylo pour consigner cette proposition de licenciement. De quel droit tu laisses tomber?
John, prête-moi le tien.
Mais t'es pas là depuis assez longtemps. Pour ta prime, ça vaut pas le coup.
Quelques milliers de livres, c'est mieux que rien. Et d'ici peu, t'auras peut-être plus rien du tout.
Alors, tu signes ou pas?
Paul, tu sais très bien que je peux pas lâcher mon boulot.
Pourquoi?
Parce que j'ai déjà été licencié deux fois, j'ai pas encore fini de rembourser mes dettes.
Vous savez quoi? Vous rentrez dans leur jeu, vous tombez tous dans le panneau parce que vous faites exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ils veulent qu'on lâche l'affaire. Ils nous ont mis dans une position où quoi qu'on fasse, on l'a dans le cul. On n'a plus le choix.
Exactement, on n'a plus le choix.
Le salaire est déterminé par la lutte âpre entre capitalistes et ouvriers. La victoire appartient nécessairement aux capitalistes. Le capitaliste peut vivre plus longtemps sans l'ouvrier que l'ouvrier sans le capitaliste. Le taux minimum du salaire, le seul tenu pour nécessaire, est celui qui assure la subsistance de l'ouvrier pendant le travail, lui permet de nourrir une famille pour que la race des ouvriers ne s'éteigne pas. Le salaire est le plus bas qui soit compatible avec la simple humanité, c'est-à-dire avec une existence animale. La demande en hommes règle nécessairement la production des hommes comme de toute autre marchandise. Si l'offre est plus grande que la demande, une partie des ouvriers tombe dans la mendicité ou la famine. L'existence de l'ouvrier est donc réduite au même état que celui de toute autre marchandise. L'ouvrier est devenu une marchandise et c'est pour lui une chance quand il arrive à se faire embaucher. Et la demande, dont dépend la vie de l'ouvrier, dépend de l'humeur du riche et du capitaliste. Florian Nicodème, se placer dans le monde, produire une critique immanente donc en étant dans le monde, c'est ce à quoi procède Marx, par exemple, dans le texte que j'ai lu, qui est extrait des manuscrits de 1844, qui détecte cette contradiction réelle, ce paradoxe qui fait que le salaire est appauvrissant. Est-ce une manière et c'est aussi ce qu'on a entendu dans l'extrait du film de Ken Loach, The Navigator, c'est-à-dire effectivement ils sont dans une situation intenable, ils doivent à la fois payer et en même temps être mal payés. Il y a donc aussi cette mise en scène de cette situation, ce que permet d'ailleurs sûrement le cinéma, mais ce que fait aussi Marx dans ses textes. À partir de cette mise en avant des contradictions, comment Marx va procéder, peut-être pour tirer une forme de généralité, pour tirer une théorie, pour tirer aussi, ne serait-ce qu'une théorie en vue d'une action.
Effectivement, avec le texte de Manuscrit de 44, on découvre l'autre grande source qui va connecter Marx au monde. On avait vu que c'était la sortie de la philosophie et notamment de la réflexion sur l'État qui l'amenait au journalisme et à la critique journalistique. Là, la deuxième grande source, c'est l'économie politique. L'économie politique que Marx découvre grâce à Engels, qui est sans doute le premier à avoir perçu avec son texte sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre, le bouleversement qui était en train de se produire de l'autre côté de la Manche à l'époque, à savoir l'apparition d'une classe de prolétaires. À partir de là, on voit que la position de Marx consiste à étudier le rapport entre prolétaires et capitalistes, c'est-à-dire les possesseurs des moyens de production, comme un rapport de force, et d'étudier sans perspective morale, sans souci moral finalement, qui, dans leur lutte, durera le plus, qui pourra survivre le plus. Alors ce qui est extrêmement intéressant dans ce texte, c'est que Marx souligne effectivement que l'un des deux est nécessairement perdant. L'un des deux est nécessairement perdant parce que lui a tout à perdre, il n'a que sa force de travail à donner, tandis que le capitaliste, lui, a des réserves, peut changer d'ouvrier quand il le souhaite, peut briser des grèves en engageant des ouvriers payés en deçà du salaire minimum pour lequel se battent les ouvriers précédents, etc. Bref, le capitaliste lui a des ressources dont le prolétaire ne dispose pas. Par contre, ce qui manque dans le texte de 1844 et que Marx va ajouter ensuite, c'est toute la dramaturgie, finalement, de l'escroquerie qu'est l'échange salaire contre travail. Dans le texte de 1844, on a encore l'impression que c'est une volonté du capitaliste.
Il dit l'humeur, d'ailleurs.
Pardon ?
Il parle d'humeur, d'ailleurs, du capitaliste.
Effectivement, le capitaliste est encore un personnage moral pour lui, le personnage d'une comédie, d'une satire de mœurs, où on a le méchant et l'ouvrier exploité. À partir du capital, on a une autre dénonciation beaucoup plus intéressante et beaucoup plus angoissante aussi, c'est l'idée que finalement, le monde du travail, le monde de l'économie, se joue sur une double scène. Il y a la scène propre, libre, fraîche, où tout le monde est beau, tout le monde est souriant, c'est la scène de l'échange et du contrat. le travailleur, finalement, apporte une marchandise, sa force de travail, il la vend, il la négocie avec le capitaliste qui va la payer à son juste prix.
Comme si tout le monde était à égalité, finalement.
Exactement, tout le monde est à égalité, tout le monde est libre. Dans ce monde-là, Marx dit « ne règne que liberté, égalité et bentham », c'est-à-dire souci de son utilité. Par contre, quand on va finalement dans l'arrière-salle, derrière le rideau, dans les salles un peu obscures où se trament finalement les conditions de cet échange, on s'aperçoit que, déjà, Marx dit « quand le capitaliste et l'ouvrier vont dans la sphère de la production, c'est-à-dire à l'endroit où l'ouvrier va effectivement travailler, déjà, l'ouvrier baisse la tête. Le capitaliste, lui, lève la tête, hein, et l'ouvrier sait qu'il va se faire tanner. Pourquoi se fait-il tanner? Parce qu'on prétend lui payer sa marchandise, hein, la force de travail, alors que l'ouvrier, lui, produit de la valeur. Par son travail, il produit plus de valeur que la valeur qui lui est payée en retour pour la simple reproduction de sa force de travail. Et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression d'un échange d'équivalent contre équivalent, le salaire contre une quantité de travail, alors qu'en réalité, le capitaliste reçoit non seulement la quantité de travail qu'il paye, mais aussi tout ce que Marx appelle la survaleur, c'est-à-dire tout ce que l'ouvrier produit en plus durant son temps de travail. Et c'est cette double scène qui, aujourd'hui encore, je pense, hein, fait la force de Marx, parce que on a tendance, quand on parle d'économie aujourd'hui, à parler de cette sphère de la négociation des contrats, les acquis sociaux, qui sont le fruit d'une histoire de lutte, hein, mais on oublie que ce sont des luttes et on fait comme si, finalement, la négociation était la donnée fondamentale. Et il faut revenir, je pense, à la réflexion aujourd'hui sur les conditions de la production. Où sont produits les valeurs aujourd'hui? Où sont produits les marchandises? Comment sont-elles produites, hein? Et ne pas se laisser prendre au piège, finalement, de cette double scène, hein, qui reste d'actualité.
En fait, ne pas se laisser prendre au piège peut-être des représentations, de la conscience qu'on a, disons, de se figurer en fait les hommes à partir de leur conscience comme s'ils étaient libres, volontaires, mais partir véritablement des conditions réelles. C'est-à-dire à la fois partir non pas de l'homme et de sa pensée, qui serait déjà une forme d'abstraction, mais plutôt partir effectivement des conditions de vie. Et ça, c'est une des grandes, on l'a vu toute cette semaine, un des grands apports et une grande originalité chez Marx, qui est d'inverser le rapport face aux philosophies dogmatiques et transcendantes, c'est-à-dire de revenir à la racine, qui serait une forme d'anthropologie. Mais est-ce que, tout le problème, en fait, dans la méthode de Marx et la méthode critique, ce n'est pas seulement de déshabiller ce réel recouvert, en fait, d'aliénation, de représentation, c'est comment il y parvient, en fait. Comment, en fait, il ne s'en tient pas à la pure description qui pourrait être masquée, en fait, par toute l'opacité du réel, par toutes les conditions d'aliénation. Comment il fait pour atteindre ce réel?
Comment atteindre le réel derrière le jeu des illusions? C'est effectivement la grande question qui court dans toute l'œuvre de Marx, en gros, depuis les manuscrits de 44 jusqu'au Capital et au-delà, puisque l'illusion est une production nécessaire du monde même de la société marchande. Autrement dit, la société marchande fait passer ce qui est un rapport social, un rapport d'exploitation, pour quelque chose qui est une propriété de la marchandise, à savoir sa valeur. Donc ça appartient aux conditions mêmes de ce monde-là. Comment parvenir à briser ces illusions? Tout simplement, d'abord en se mettant à l'école de l'économie politique et en essayant de lire l'économie politique. Lire l'économie politique en détectant ce qu'elle voit et ce qu'elle ne voit pas. Et ici, Marx, on peut suivre ici une suggestion d'Althusser, pratique une lecture symptomale de l'économie politique en montrant que parfois, il y a des blancs dans ce que dit l'économie politique, qu'elle ne voit pas des choses qui pourtant sont sous ses yeux, et que Marx, lui, lisant par-dessus l'épaule des économistes, par-dessus l'épaule de Ricardo, par-dessus l'épaule de Smith, lui, arrive à voir.
Et comment il y arrive?
Alors, il y arrive aussi parce que l'État dans lequel il trouve l'économie, et notamment la classe ouvrière, la classe laborieuse, n'est déjà plus le même que celui dans lequel Ricardo ou Smith l'avaient trouvé. Le capitalisme s'est développé et a laissé transparaître quand même un peu plus nettement quelles étaient ses logiques sous-jacentes. Donc on peut avoir déjà une petite supériorité historique dans ce qu'on a sous les yeux. Ensuite, je pense que l'un des ressorts de la critique de Marx, c'est aussi, il faut bien le dire, une critique philosophique. Le choix de renoncer à la sphère de la conscience. Dans la lettre à Rougueux, finalement, la solution, c'était de faire prendre aux hommes conscience de ce pourquoi ils luttent. Et Marx, dans la préface, ce qui sert de préface à l'idéologie allemande, raconte une petite histoire assez amusante qui dit « Il était une fois un homme qui était attaché au sol parce qu'il était habité, croyait-il, par l'idée de la pesanteur. » Et il se disait « Bah, il suffit que je me débarrasse de l'idée de la pesanteur, que j'en opère une critique philosophique, que je me dise finalement que c'est là un reliquat de théologie ou un reliquat de ceci ou de cela, et aussitôt j'en serai débarrassé, je pourrai voler, et je n'aurai plus peur de couler lorsque je vais dans l'eau. Évidemment, c'est là la critique la plus impitoyable d'une philosophie qui croit qu'il suffit de transformer les idées pour transformer le monde, finalement. Et du coup, Marx opère cette critique philosophique, ouvrant la philosophie et ses idées, non pas à la détermination du monde, mais à une détermination par le monde, essayer de comprendre comment les idées philosophiques, mais aussi les idées économiques, notamment la théorie du libre-échange, par exemple, sont produites par des conditions du monde qu'il faut étudier. Et Marx a cette phrase définitive qui dit qu'il faut désormais substituer l'étude du réel, sociologique, historique, à la philosophie, parce que la philosophie est à l'étude du réel, ce que la masturbation est à l'amour à deux.
Je pense il emploie le mot masturbation ?
Il l'emploie, oui.
D'accord.
Donc c'est dans l'idéologie allemande.
Ok, on regardera.
Quand, partant des pommes, poires, fraises, amandes réelles, je me forme la représentation générale « fruit », et quand allant plus loin, je m'imagine que ma représentation abstraite « le fruit », tiré des fruits réels, est un être existant hors de moi, mieux, qu'il est la vraie essence de la poire, de la pomme, etc., je déclare, en langage spéculatif, que le fruit est la substance de la poire, la pomme, l'amande, etc. Je dis donc qu'il ne serait pas essentiel à la poire d'être poire, à la pomme d'être pomme. L'essentiel dans ces choses ne serait pas leur existence réelle perceptible au sens, mais bien l'essence que j'en ai abstraite et que j'ai placée sous elle comme leur support, l'essence de ma représentation, le fruit. Je tiens donc pomme, poire, amande, etc., pour de pures formes d'existence, des modes du fruit. Si la pomme, la poire, l'amande, la fraise ne sont en vérité rien d'autre que la substance, le fruit, alors la question se pose, d'où vient que le fruit se montre à moi tantôt comme pomme, tantôt comme poire, tantôt comme amande? D'où vient cette apparence de pluralité qui contredit si évidemment à mon intuition spéculative de l'unité de la substance du fruit? Cela vient, répond le philosophe spéculatif, de ce que le fruit n'est pas un être mort, indifférencié, en repos, mais qu'il vit, qu'il se différencie en lui-même, qu'il est en mouvement. Les divers fruits profanes sont autant de manifestations de vie diverses du fruit unique. Ce sont des cristallisations que forme le fruit lui-même. Ainsi, par exemple, dans la pomme, le fruit se donne une existence de pomme. Dans la poire, une existence de poire. Il ne faut donc plus dire, en restant du point de vue de la substance, la poire est le fruit, l'amande est le fruit, mais bien plutôt, le fruit se pose comme poire, le fruit se pose comme pomme, le fruit se pose comme amande.
Scooby-dooby-oo, ah. Scooby-dooby-oo, ah. Scooby-dooby-oo, ah. Scooby-dooby-oo. La rencontre chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des scooby-dooby-oo. Pommes, pommes, poires, poires et des scooby-dooby-oo. Scooby-dooby-oo. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt, elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, des scooby-dooby-oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires, des scooby-dooby-oo. Ah, scooby-dooby-oo. Ça ne pouvait pas durer longtemps.
Il est 10h30, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, où pour ce quatrième et dernier moment consacré à Marx, eh bien j'ai le plaisir d'évoquer la critique, la méthode critique de Marx en compagnie de Florian Nicodème, professeur de philosophie au lycée Jacques Decour, spécialiste de philosophie allemande, Hegel, Marx et l'école de Francfort, traducteur d'Adorno et de Marx, et puis membre de l'équipe de la grande édition Marx et Engels aux éditions sociales, et aussi qui a co-dirigé avec Julia Christ l'injustice sociale qu'elle voit pour la critique aux éditions Puf.
La leçon que j'en ai tirée est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Les pommes, des poires et des scooby-dooby-oo.
Florian Nicodème, on a entendu interpréter par Jean-Louis Jacopin ce texte de la Sainte Famille qui date de 1844. C'est un texte écrit par Marx et Engels. En voilà l'illustration de ce que Marx appelle une masturbation intellectuelle, à savoir ce langage spéculatif. Alors effectivement, si on écoute le texte comme ça, on peut être pris au piège. C'est-à-dire qu'on peut se dire, incroyable, Marx produit une pensée très abstraite, très transcendante, ce qui peut peut-être nous choquer un peu si on a écouté les émissions depuis le début de la semaine. Mais en fait, dans ce texte, Marx est très ironique. C'est-à-dire que le seul moment où ça apparaît dans le texte, c'est quand il dit « je déclare » en langage spéculatif que le fruit est la substance de la poire, la pomme, l'amande, etc. Alors comment Marx, en fait, ne va pas seulement produire une critique qui est assez originale déjà dans sa forme, parce qu'elle passe par un style ironique, comment Marx va produire une critique de cette philosophie transcendante, abstraite, qui est celle d'Hegel, en fait, qui est quand même le premier philosophe qui l'a influencé, comment il va articuler cette critique-là avec quand même la production d'une théorie qui, on a l'impression, ne renonce pas non plus à une forme d'ontologie de l'argent, à une forme de systématisation des idées. Florian Nicodème.
Alors effectivement, on a là, je pense, à la fois le texte le plus merveilleux de Marx, le plus merveilleusement symptomatique de son humour et de sa capacité d'écriture. Je pense que, bon, c'était merveilleusement lu en plus, hein. Mais je pense que vous pointez du doigt une contradiction très grande, qui est la contradiction peut-être du discours théorique lui-même. À la fois, il ne peut se nourrir que du contact avec la réalité empirique, sans chercher à la reconstruire, sans chercher à substituer à la poussière des faits et des événements une construction qui serait illusoire. Et en même temps, il ne peut pas se contenter, s'il veut faire apparaître les logiques sous-jacentes du réel, celles au nom desquelles on peut le critiquer, il ne peut pas se contenter de décrire les faits, il ne peut pas se contenter du positivisme. Et donc c'est la tension dans laquelle Marx s'installe, avec jubilation dans le texte 1844, avec plus d'angoisse ensuite. Pourquoi plus d'angoisse? Parce que tout simplement, il s'aperçoit que la voie du matérialisme empiriste qu'il emprunte dans le texte qu'on vient d'entendre, qui lui vient de Feuerbach, est une voie qui pourrait bien le prendre au piège, hein, parce que finalement, Feuerbach prend les objets qu'il reçoit de la sensibilité contre les constructions spéculatives, mais il les reçoit de l'histoire sans interroger leur dimension historique. Et Marx va peu à peu chercher à substituer finalement à cet empirisme jubilatoire, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que celui de l'homme du commun qui dit, bah voilà, il y a des pommes, des poires, hein. Pourquoi le philosophe spéculatif s'amuse à reconstruire tout ça par autant de détours, hein. L'homme du commun, dit Marx, croit n'avoir rien dit d'extraordinaire, alors que le philosophe spéculatif, quand il dit il y a des pommes, des poires et des amandes, il croit avoir accompli un miracle conceptuel. Mais qu'est-ce qui ne suffit pas? Dans l'approche de Feuerbach, ce qui ne suffit pas, c'est tout simplement que les choses ont une histoire. Les choses sont inscrites, hein, ne sont pas des purs produits donnés par la nature, mais sont inscrites dans l'histoire des pratiques humaines. L'exemple favori de Feuerbach, qu'il joue en permanence contre Hegel, c'est le cerisier. Le cerisier qui est dans son jardin, et qu'il regarde, il dit « ça c'est la certitude sensible, c'est cela qu'il faut jouer contre le concept de Hegel. Pourquoi reconstruire ce cerisier alors que c'est lui qui est l'être même, c'est de lui dont il faut partir ?» Et Marx dit « mais Feuerbach oublie que le cerisier a une histoire, qu'il a été apporté en Europe depuis l'Amérique, hein, dans le cadre d'un certain nombre de rapports économiques, etc. Et du coup, l'objectif de Marx, ça va être de reconstituer un réel, hein, à partir de sa dimension historique, à partir de la bonne focale, pour comprendre ce qui fait que les choses qui nous paraissent évidentes, hein, celles que nous avons sous les yeux, finalement, sont le résultat est le produit d'une histoire.
La question, c'est vrai qu'on peut poser à Marx, c'est comment lui fait-il de son côté pour poser face à une pluralité de fruits? Comment fait-il en fait pour effectivement unifier son propos, catégoriser, classifier et proposer une théorie et ou plutôt, on va dire, une critique? Est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, aussi que Marx va renoncer aux catégories de la philosophie, aux catégories transcendantes, pour en fait passer, comme vous le dites, Florian Nicodème, à une description, c'est-à-dire à une reconstitution du réel, à une vision, en fait, une conception beaucoup plus scientifique, du réel, mais pour le coup, qui va trancher, où on peut se poser la question de son lien avec une dimension normative. C'est-à-dire que là, le risque, c'est non seulement d'être face à la pluralité, mais de ne pas parvenir à l'unifier, mais ensuite, en fait, de parvenir à l'unifier, mais de n'en tirer aucune règle. Comment va se faire le lien avec cette dimension normative et prescriptive?
Effectivement. La grande difficulté, c'est que, au moment de l'idéologie allemande, au moment de, après ce que j'appellerais le premier parricide, hein, le moment où il tue Hegel définitivement à coup de fruit, visiblement, il se débarrasse de lui, il se débarrasse de la spéculation et il se tourne résolument vers l'empirie, vers la description finalement de l'activité pratique des hommes, c'est là qu'il propose une théorie anthropologique de l'histoire fondée sur les besoins par exemple, hein. Mais ce qu'il va découvrir, c'est que Hegel lui réservait finalement une dernière surprise, hein. C'est que le fonctionnement du réel, quand on cherche à le traduire en des termes conceptuels, quand on cherche à en déterminer quelles sont les règles et quelles sont les lois, ressemble en réalité au concept hegelien, ressemble à ce que la spéculation disait être le fond du réel. Alors évidemment, le réel ne ressemble pas à ce que dit Hegel au sens où ça voudrait dire que le réel est le produit du concept, hein, le produit de l'activité philosophique, comme le croit Hegel qui est un idéaliste, mais ce que Marx découvre, c'est que la doctrine hegelienne, la philosophie, la logique hegelienne, décrit en réalité des modes de fonctionnement qui sont ceux du capitalisme. Et Marx va se trouver face à un impératif. On ne peut pas décrire la manière dont le capital, qui est un processus, fonctionne, sans avoir recours finalement aux catégories hegeliennes. Le véritable concept, la matrice de toute réalité, d'après Hegel, c'est le capital. Pour Marx, qui fait monde, qui produit un monde, suivant une logique qui ressemble beaucoup aux catégories hegeliennes. Alors que faire? Que faire? On n'a pas d'autre choix que d'exposer finalement le fonctionnement du capital pour ce qu'il est, à savoir une logique particulière qui prétend se substituer au monde et finalement réguler l'intégralité des rapports. Marx redécouvre la valeur de la philosophie hegelienne, non pas tant comme fondement de la réalité, mais comme description, symptôme de ce qui est en train de se jouer sous les yeux de l'humanité à la charnière entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Et du coup, où trouver là-dedans une norme? Où trouver une critique, sachant que le capital se nourrit de lui-même, produit un monde à sa propre mesure et suivant sa propre logique? Eh bien, Marx pointe deux voies. La première voie serait temporelle et logique, à savoir poursuivre aussi loin que possible cette logique intrinsèque capitale et voir si à un moment donné, elle ne va pas déboucher sur des contradictions. Et c'est toute la fin du livre 1 du Capital qui insiste sur ce point, sur le fait qu'inévitablement, en vertu de sa logique propre, celle qu'il emprunte ou dont la description est empruntée au concept hegelien, le capital va devoir s'effondrer, va entrer dans des crises qui vont provoquer son effondrement. Alors c'est une voie qui est une possibilité réelle, inscrite dans l'essence du capital, mais dont rien ne nous garantit, sinon la théorie elle-même, qu'elle va se réaliser, qui n'a peut-être rien à nous dire, sinon attend et un jour, peut-être, le capital s'effondrera.
C'est toute la problématique de la détermination, du déterminisme. Exactement. Ou de la prise de décision, la responsabilité des individus chez Marx.
Exactement. Mais c'est une des premières sources normatives chez Marx de dire l'avenir est déjà joué dans la logique même du capital. Et du coup, nous pouvons, dès à présent, anticiper ce qui va se produire et lutter pour aider à l'avènement de ce qui va se produire de toute façon inévitablement. Donc c'est une position qui a longtemps été celle, hein, de ce qu'on a appelé le marxisme ou le matérialisme historique, de dire qu'il existait des lois tendancielles qui allaient provoquer l'effondrement du capitalisme. Hein, et c'est une position qui trouve son fondement chez Marx, pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la description que Marx fait du capital, il y a un autre point très important qui est qu'il intercale au milieu de la description philosophique et logique de la logique du capital deux chapitres sur les luttes historiques et notamment un chapitre fondamental sur les luttes autour de la durée de la journée de travail. Comme si, interrompant un moment le processus par lequel le capitalisme se fait passer pour le monde et produit un monde à sa mesure, Marx rappelait qu'il restait une dernière extériorité au capital. Cette extériorité, c'est celle des luttes, celle des travailleurs qui peuvent lutter pour limiter finalement la durée de la journée de travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le capitalisme exploite leur travail pour produire de la survaleur. Et cette lutte, pour le coup, est à l'extérieur de la logique du capital. C'est uniquement parce que des travailleurs, depuis un point, qui n'était pas intérieur au capitalisme, ont lutté, c'est uniquement pour ça que le capitalisme s'est autolimité. À savoir que la lutte autour de la durée de la journée de travail a débouché finalement sur des durées plus limitées et que le capitalisme a dû changer de mode de production de la survaleur. Et donc Marx nous rappelle que le capitalisme, malgré cette splendeur hegélienne qu'il décrit comme finalement un processus qui se fait monde, a encore une extériorité. Cette extériorité, il faut la jouer contre lui, il faut rappeler l'importance des luttes concrètes. Non pas attendre l'avenir où le capitalisme va s'effondrer, mais dès maintenant, finalement, trouver un point à l'extérieur du capital d'où on peut encore, peut-être, lutter contre son devenir monde.
Mais pourquoi dites-vous que ces luttes sont extérieures alors qu'elles sont le fruit même des contradictions du capitalisme ? Qu'elles sont dans le immanente propre produite par le monde capitaliste ?
Parce que l'intégralité des autres déterminations du monde, le contrat de libre-échange, les modes de production, la manière dont concrètement les travailleurs vont dans les usines, dans les manufactures travailler, tout cela est produit par la logique propre du capital. Autrement dit, on récupère des éléments archaïques, des modes de production antérieurs, et le capitalisme les détricote et les recrée à sa mesure, pour qu'ils correspondent parfaitement à sa logique. Une seule chose résiste finalement, c'est le travailleur lui-même, qui ne peut pas être créé par le capitalisme. C'est pour ça que je dis que c'est extérieur, parce que c'est la seule chose qui est peut-être irrécupérable dans la logique du capitalisme. Mais c'est quelque chose qu'on peut formuler finalement avec un point d'interrogation, puisque effectivement, il n'est pas du tout interdit de penser que depuis l'époque de Marx, le capitalisme a su récupérer jusqu'à cette extériorité finalement, et trouver une fonction, une place dans sa logique propre à ce qui était pourtant quelque chose d'initialement extérieur. Je pense par exemple au fait que la critique du capitalisme est devenue finalement partie intégrante du capitalisme lui-même. Le monde bruit depuis des décennies d'une critique du capitalisme qui ne débouche sur aucune transformation.
Et ce serait d'ailleurs le principe du mouvement dialectique dont il hérite de Hegel, à savoir que un élément positif va de pair avec sa résistance et on imagine inversement, un élément négatif va de pair avec sa dimension positive. C'est-à-dire que comme si un élément était donné avec de multiples couches réflexives qui restaient quand même dans un mouvement global, qui n'admettait pas de transcendance pour le coup.
Effectivement, alors que Marx a toujours joué l'opposition matérielle de force contre la contradiction hegélienne, qui est une belle machine, un beau moteur à produire ou à reproduire le réel sur le mode de la spéculation, il a toujours dit finalement la réalité de la tension, ce sont des luttes et des rapports de force derrière cette logique-là. Sauf que on a peut-être affaire avec le capital à une force qui a cette capacité d'intégration des contraires. Donc ce ne serait pas la vérité dialectique qui permettrait de comprendre le capitalisme, mais le capitalisme serait lui-même une force qui a avalé la dialectique.
Et une vérité en cela. C'est-à-dire que comprendrait une forme de vérité, du moins nous dirait même comment intellectuellement le mouvement dialectique fonctionne.
Exactement. En tout cas, il fonctionne lui-même de manière dialectique. Il produit ses contraires et il les avale, mais il n'en reste pas moins, et je pense que ce point doit être marqué, que le cadre à l'intérieur duquel le capitalisme existe n'est pas le capitalisme lui-même. C'est une lutte. C'est un cadre dans lequel le capitalisme a encore un extérieur, pour Marx. C'est le cadre de la lutte. Et Marx rappelle notamment pour l'origine du capitalisme que ces luttes, ce sont des vols, des rapines coloniales, des expropriations de paysans, etc. Donc le capital fait oublier sa propre histoire, fait oublier qu'il s'est imposé contre d'autres forces qui pourraient du coup s'affronter à nouveau à lui, et se fait passer finalement pour l'origine et l'alpha et l'oméga de l'histoire, l'origine et la destination finale de l'histoire.
Marx est réputé philosophe et connu comme tel pour avoir été l'auteur d'un certain nombre d'œuvres de jeunesse qu'on distingue le plus souvent de ses œuvres ultérieures qui sont surtout des œuvres économiques et politiques. Si on analyse toute cette œuvre, on s'aperçoit effectivement que les concepts auxquels Marx se réfère sont des concepts qui appartiennent à la grande philosophie classique allemande et, dans sa dernière période, en particulier à la forme que lui a donnée Feuerbach. Toutefois, de l'aveu de Marx lui-même, c'est vers 1845 qu'en accord avec Engels, il entreprend de liquider sa conscience philosophique d'autrefois. L'expression est en propre terme dans les textes de Marx. Cette liquidation, nous la trouvons dans un écrit qui s'intitule « L'idéologie allemande » et qui a pour objectif essentiel de mettre un terme critique à la philosophie anthropologique antérieure de Marx.
Les prémices dont nous partons ne sont pas arbitraires, ce ne sont pas des dogmes. Il s'agit de présupposés réels dont on ne peut faire abstraction qu'en imagination. Il s'agit d'individus réels, de leur action et de leurs conditions d'existence matérielle, celles trouvées toutes prêtes et celles créées par leur propre activité. Ces présupposés sont donc constatables de manière purement empirique. Le premier présupposé de toute histoire humaine est naturellement l'existence d'individus humains vivants. Le premier acte historique de ces individus par lequel ils se distinguent des animaux n'est pas ce qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. Le premier état de fait à constater, c'est donc l'organisation physique de ces individus et le rapport qui en découle pour eux avec le reste de la nature. Florian Nicodème, on a entendu la voix de Louis Althusser, c'était en 1965, dans l'émission avec ce très beau titre « Analyse spectrale de l'Occident », dans lequel il affirme finalement que Marx met un terme à sa philosophie, un terme critique à sa philosophie anthropologique avec l'idéologie allemande en 1845, dont j'ai lu un extrait. Alors à quoi met-il en fait un terme ici, Marx, c'est-à-dire à sa philosophie ou à son anthropologie? Parce que quand on entend la manière dont il redit, enfin dont il le dit, dont il réaffirme ce qu'on a affirmé depuis le début de notre échange, à savoir que le point de départ, c'est l'homme empiriquement, on peut se demander à quoi Marx met un terme finalement.
Alors, de manière très locale, on peut dire que Marx passe de la philosophie anthropologique, ou l'anthropologie philosophique, à l'anthropologie tout court. Autrement dit, il passe de la doctrine inspirée de Feuerbach, comme le rappelle Althusser, une doctrine qui dit finalement que la critique du monde existant, pour Feuerbach essentiellement la critique de la religion, mais pour Marx, cette critique de la religion doit se poursuivre en critique de la politique, critique de l'économie et critique du social. Cette critique est exercée au nom d'un concept philosophique d'homme, un homme complet, dont les autres phénomènes que j'ai cités, donc religion, politique, etc., ne seraient que des formes mutilées. L'homme se présenterait à lui-même sous une forme mutilée, et l'objectif de la philosophie et de la critique philosophique, ce serait de rendre à l'homme la totalité de son être, finalement. Lui rendre sa sensibilité contre l'abstraction de l'homme philosophique.
Même contre ses pensées, d'ailleurs.
Exactement, contre ses pensées. Lui rendre, finalement, toutes les propriétés qu'il prête à Dieu ou au Dieu, qui ne sont que des propriétés de l'homme comme espèce, etc., etc. Et à cela, Marx met un terme avec l'idéologie allemande en disant « voilà, nous ne pouvons pas partir d'un concept d'homme qui en réalité est une présupposition normative injustifiée. On part d'un concept philosophique d'homme qu'on ne peut pas justifier. Donc pour poursuivre le mouvement, il faut maintenant étudier la production réelle des hommes, la manière dont les hommes eux-mêmes, anthropologiquement et empiriquement, évoluent. Donc il y a effectivement ici quelque chose comme une rupture, une coupure, pour reprendre les mots d'Althusser, à ceci près que cette anthropologie, pour être empirique, est-ce qu'elle se débarrasse totalement de la philosophie? Évidemment, elle se débarrasse de la philosophie de Feuerbach.
C'est la question. Et vous en héritez, Florian Nicodème, dans cette semaine. Marx est-il philosophe?
Vaste question, évidemment, à laquelle la réponse d'Althusser est claire. N'est philosophie, finalement, que ce discours idéologique inconscient de son ancrage dans une réalité empirique et notamment dans une réalité économique. Donc il refuse, avec Marx, d'appeler philosophie autre chose que la production idéologique par des philosophes professionnels, c'est-à-dire des intellectuels qui ont une place dans les rapports de production, de concepts qui, en réalité, sont coupés de la base réelle. Et donc il va falloir substituer à cette philosophie-là, qui est un symptôme, un objet à analyser, ce que Althusser va, faute de mieux, appeler théorie, à savoir, en gros, l'analyse d'un mode de production en général, des rapports de production en général, qui comprend notamment une théorie de la production philosophique comme une théorie de la production idéologique, comme une sous-partie de cette théorie de la production idéologique.
Mais cette théorie dont parle Althusser, pour ne pas dire le mot de philosophie, finalement on peut quand même lui donner ce terme de philosophie, si ce n'est qu'il faut penser la philosophie d'une autre manière que celle dont on a tendance à se la représenter. Il faut nous-mêmes nous départir de nos illusions et de nos pensées sur la philosophie.
Effectivement, je pense que l'apport de Marx au concept de philosophie, je pense qu'il aurait sauté au plafond en entendant quelqu'un dire ça. L'apport de Marx au concept de philosophie, alors que lui a répudié le mot et croyait-il en même temps la chose, hein, son apport, c'est d'avoir ouvert finalement au cœur de la philosophie une plaie qui n'est toujours pas refermée, la plaie de savoir si la philosophie est une activité autonome, hein, c'est-à-dire qui est elle-même fondatrice de ce qu'elle dit, capable de justifier ce qu'elle dit, ou bien ce n'est pas une activité qui est toujours ouverte à la question de sa détermination par un extérieur, en l'occurrence pour Marx, socio-économique. Et je pense que l'on peut défendre, finalement, que le concept de la philosophie peut être maintenu avec et après Marx, à condition de rappeler ça, à condition de rappeler que, après Marx, il n'est plus possible de faire retour au concept d'une philosophie parfaitement fermée sur elle-même, autosuffisante, mais qu'il subsistera toujours l'inquiétude de cette détermination.
Debout les données de la terre, debout les forces de la faim, la raison tourne au centre la terre, c'est l'éruption de la fin.
Du passé, faisons table rase, l'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous.
C'est la lutte, cœur, rompons-nous, et demain, la terre nationale sera.
C'est la lutte finale.
Ok, vive la rose.
Coupons-nous et demain.
Ok, vive la rose.
Car l'international,
vive la rose et le lilas,
sera le jour humain.
Vive la rose et le jasmin.
Vive la rose et le jasmin.
Merci beaucoup Florian Nicodème, je suis ravie qu'on se quitte sur ce magnifique piano. Magnifique piano qui reprend l'international, un petit medley concocté par Nicolas Berger. Je rappelle que vous avez coécrit, co-dirigé avec Julia Christ, L'injustice sociale, quelle voie pour la critique. J'en profite pour vous remercier d'avoir clôturé, fini cette semaine sur Marx et pour dire à nos auditeurs qu'ils trouveront sur le site toutes les références bibliographiques pour pouvoir lire directement Marx. Et quant à nous, chers auditeurs, eh bien on se retrouve demain pour les chemins du vendredi, ou alors là on fait le grand écart puisque j'aurai le plaisir de recevoir le philosophe Luc Foineau à propos de son ouvrage sur Hobbes, la vie inquiète, qui est paru aux éditions Folio Gallimard. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Et puis je rappelle, comme tous les jeudis, que nous sommes en partenariat avec Philosophie Magazine, dont vous pouvez lire le numéro de mai avec un dossier sur Nomades contre sédentaires, la nouvelle lutte des classes, ça fait écho avec notre semaine, et puis aussi un cahier central sur Machiavel et l'art de la guerre, ou encore un entretien de Tristan Garcia. Et puis enfin, j'en profite pour remercier chaudement Colomba Grossi qui s'en va, au moins jusqu'à cet été, affronter l'agrégation de philosophie. Courage à elle de la part de toute l'équipe.